Il est 18h sur France Culture, le journal Thomas Larabie. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Les victimes d'inceste prennent la parole sur les réseaux sociaux 10 jours après le début de l'affaire Duhamel. Les hashtags MeTooInceste se multiplient sur Twitter, alors qu'un Français sur 10 serait victime d'inceste. On y revient dans un instant. Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, rentre à Moscou malgré les menaces d'arrestation. Il était en convalescence depuis plusieurs mois en Allemagne suite à son empoisonnement présumé. Plusieurs de ses alliés ont déjà été arrêtés à l'aéroport de Vnoukovo où ils sont venus l'accueillir. Et puis la question des effets secondaires du vaccin Pfizer au cœur du débat en Norvège. Plusieurs personnes très âgées et très fragiles sont décédées suite à l'injection. Les détails à la fin de cette édition. L'affaire Olivier Duhamel a-t-elle libéré la parole des victimes d'inceste? Il y a 10 jours, dans son livre La Familia Grande, Camille Kouchner accusait son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuellement son jumeau adolescent à la fin des années 80. Une enquête judiciaire a été ouverte suite à la parution de ce livre. Un témoignage qui pousse aujourd'hui de nombreuses victimes d'inceste à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Rémi Brancato.
C'est un afflux massif de messages, près de 50 000 depuis hier sur Twitter, avec ce mot dièse MeToo inceste, message de soutien et surtout témoignages de victimes comme Agathe, 26 ans. À 13 ans, elle a subi les agressions sexuelles de son beau-père. L'homme a été condamné et ce matin, elle témoigne, dit-elle, pour que la société l'écoute aussi.
J'ai rencontré de plus en plus de gens qui avaient vécu la même chose que moi, leur grand-père, leur oncle, leur cousin. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on est aussi nombreux et pourquoi est-ce que en face, ces gens-là continuent d'être parfois vus comme des parents modèles et l'inceste. On est tellement nombreux à avoir vécu ça que si déjà ne serait-ce qu'un quart des gens qui ont vécu ça témoignent, les politiques et la justice et tout ça, peut-être qu'ils se rendront compte que c'est vraiment partout dans tous les milieux.
Car les études, les sondages sont là depuis des années. Un Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste. Madeleine Da Silva du collectif féministe Nous Toutes demande maintenant une réponse des pouvoirs publics.
On parle beaucoup du silence qui entoure l'inceste. Or, les enfants qui subissent ce type de violence parlent pas forcément avec des mots, mais ils parlent avec des symptômes. Le problème aujourd'hui, c'est que peu de personnes sont formées à comprendre ces symptômes. Si on formait de manière systématique les professionnels qui sont en contact des enfants, on pourrait sauver des milliers de vies.
Car les dégâts de l'inceste sont colossaux à long terme. Agathe dit aller bien aujourd'hui car sa mère l'a écoutée à l'époque. Beaucoup d'autres témoignent du traumatisme en ce moment. J'avais 5 ans, écrit cette victime. En une soirée, ce frère de ma mère a assombri le cours du reste de ma vie.
Les précisions de Rémi Brancato. Washington est barricadée. À 3 jours de l'investiture de Joe Biden, la capitale se prépare à la cérémonie officielle avec la peur d'une possible action des militants pro-Trump les plus virulents. 10 jours seulement après l'envahissement du Capitole ayant conduit à la mort de 5 personnes. Alors que cette cérémonie d'investiture est habituellement l'occasion pour des centaines de milliers d'Américains d'affluer dans la capitale, il est probable cette année que le nombre de militaires dépasse celui des spectateurs sur place. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour même, puisque vous êtes sur place à Washington, la capitale, qui a des allures de ville en état de siège, Sébastien.
Oui, c'est exactement ça. La ville est complètement assiégée, barricadée, verrouillée, en tout cas pour la partie centrale qui englobe le Capitole, à quelques dizaines de mètres duquel nous sommes, derrière de vastes grilles de plus de 3 mètres de haut et des blocs de béton qui englobent donc ce secteur du Capitole, tout le mall, toute l'esplanade qui va jusqu'au monument au pied de la Maison Blanche, et la Maison Blanche exactement également. Tous les accès à plusieurs blocs sont complètement impossibles. Nous avons pu passer avec Nicolas Mathias, avec nos cartes de presse, et venir au plus près de ce bâtiment devant lequel, le Capitole, devant lequel se trouvent des militaires, comme si nous étions au centre de Bagdad ou au centre de Kaboul. Je crois que la comparaison n'est pas trop forte. Des véhicules kaki bâchés avec des soldats et leurs équipements assis, stationnés ou qui gardent ces grilles derrière les pelouses là ici au pied du Capitole. Des blocs de béton, je vous l'ai dit, partout dans les quartiers autour, les artères autour qui mènent à ce mall où d'habitude il y a parfois 1 million de personnes pour l'investiture de Barack Obama par exemple en 2008. Ici tout est désert et il y a des postes de contrôle avec des tentes, de gros projecteurs, des véhicules de de police ou du secret service avec des agents à l'intérieur, des agents à l'extérieur en armes avec gilets pare-balles qui vous contrôlent et qui empêchent le public d'accéder. Vous disiez que sans doute mercredi pour l'investiture de Joe Biden, il y aurait plus de policiers et de soldats de la garde nationale. Ils sont 20 000 ici, les soldats de la garde nationale, dans la capitale fédérale. Il y a des chances que mercredi, ils soient tout aussi nombreux et évidemment plus nombreux sans doute que le public qui avait été appelé, en tout cas pour les partisans de Trump, à manifester aujourd'hui ici à Washington. Inutile de vous dire qu'avec ce dispositif militaire et policier, il n'y a absolument aucune manifestation aujourd'hui à Washington.
Sébastien Paour depuis Washington avec Nicolas Mathias aux moyens techniques. L'avion d'Alexei Navalny vient d'être dévié vers un autre aéroport à Moscou. L'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine avait décidé de rentrer dans son pays en dépit des menaces d'arrestation de la part de la justice russe. Il a décollé d'Allemagne où il est en convalescence depuis plusieurs mois suite à son empoisonnement présumé. Claude Bruyot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'aéroport Vnoukovo où était attendu Alexei Navalny, mais son avion a finalement été dévié, Claude.
Oui, absolument. On a attendu ici pendant 40 minutes le retard qui était annoncé de ce vol Berlin-Moscou par la compagnie Pobieda pour apprendre donc il y a quelques minutes que cet avion dans lequel se trouve Alexei Navalny a été détourné vers Sheremetyevo, un autre aéroport moscovite, bien sûr pour éviter qu'Alexei Navalny ne rencontre les dizaines, les centaines de sympathisants qui sont ici à Vnoukovo, qui sont venus en pure perte. Donc dans le hall des arrivées se trouvent quelques dizaines de sympathisants qui ont dû d'ailleurs acheter des billets pour pouvoir accéder au terminal des arrivées. Des centaines d'autres sont restés à l'extérieur dans le froid. Il fait environ moins 20 degrés ce soir à Moscou. Des proches d'Alexei Navalny, dont l'avocate Lyubov Sovol, ont pu pénétrer également l'intérieur de l'enceinte ici, mais ont été rapidement arrêtés par les nombreux policiers présents ce soir donc à l'aéroport de Vnoukovo. Pour l'instant, on ne connaît pas évidemment encore le sort qui sera réservé à Alexei Navalny. Des vidéos prises à l'intérieur de l'appareil circulent sur les réseaux sociaux. On y voit l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, assis place numéro 13, à côté de son épouse qui dit simplement « Préparez la vodka, on rentre à la maison ».
Claude Bruyot depuis l'aéroport de Vnoukovo à Moscou. En France, plus de 400 000 personnes sont déjà passées sous l'aiguille du vaccin Pfizer et les personnes de plus de 75 ans sont appelées à se faire vacciner dès demain. Mais ce week-end, au-delà du calendrier, c'est la question du passeport vaccinal qui a refait son apparition dans le débat politique. Un passeport pour autoriser uniquement les personnes vaccinées contre la Covid-19 à voyager ou même à participer à certaines activités. Une mesure de privation de liberté supplémentaire potentielle, mais pour le professeur Gilles Pialoux, cette méfiance ne tiendrait pas longtemps. Écoutez.
Quand vous voyez le côté liberticide des variants qui arrivent, excusez-moi, mais je trouve ça complètement déplacé. Les gens vont se l'approprier. Est-ce que le certificat de vaccination jaune, pour la fièvre jaune, est vécu comme un document liberticide ? Vous voulez aller dans un pays où la fièvre jaune est obligatoire, après c'est les pays qui décident. Ça ne sera pas liberticide. Il faut qu'il y ait un aspect technique qui protège les individus. Par exemple, on voit pas un fichier, évidemment qu'il faut pas un fichier central. Il faut un code QR, quelque chose qui soit pas trop falsifiable, etc. Puis autre chose aussi, les Français vont se l'approprier, et puis après, ça empêchera pas de maintenir les mesures barrières si vous allez au théâtre et qu'on vous demande votre passeport au théâtre. Moi, ça me choque pas.
Et pour le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, qui a pris la parole ce matin, ce débat est clairement prématuré. Il veut, avant cela, généraliser l'accès au vaccin, mais aussi être certain de son impact sur la transmission du virus. Et alors que de nombreux pays ont lancé la course à la vaccination pour venir à bout de l'épidémie de la Covid-19, la question également des effets secondaires des vaccins continue de se poser. Alors que les essais ont été effectués en un temps record, laissant peu de recul sur ces produits. En Norvège, l'agence norvégienne des médicaments indique avoir établi un lien entre plusieurs décès survenus dans le pays et les effets secondaires du vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech. Les précisions de Frédéric Faux.
Ce sont pour l'instant 23 décès qui posent question aux autorités norvégiennes. 23 personnes très âgées, souvent plus de 80 ans, touchées également par des pathologies sous-jacentes et qui sont décédées quelques heures ou quelques jours après leur vaccination. D'après les premières autopsies et analyses, les effets secondaires inoffensifs chez la plupart des vaccinés, comme l'allergie ou la fièvre, auraient pu provoquer la mort de ces patients particulièrement fragiles. C'est en tout cas l'hypothèse sur laquelle travaillent les experts norvégiens en collaboration collaboration avec le fabricant Pfizer. Car comme tous les vaccins, si celui contre la Covid a été testé lors de son élaboration sur des milliers de patients, il a très peu été sur des publics spécifiques, comme les personnes très âgées ou les enfants. En attendant les résultats de l'enquête en cours, l'Institut norvégien de santé publique a décidé de modifier ses consignes pour la vaccination des plus vieux ou des plus malades. Car pour ceux qui ont une durée de vie restante très courte, explique-t-il, les avantages du vaccin peuvent être marginaux ou non pertinents.
Les précisions de Frédéric Faux. Avant de refermer ce journal, on apprend la mort du producteur Phil Spector à l'âge de 81 ans dans un pénitencier de Californie. Ce célèbre producteur new-yorkais est notamment derrière le succès des albums Let It Be des Beatles ou encore Imagine de John Lennon. Reconnu coupable du meurtre de l'actrice Lana Clarkson, il purgeait une peine de 19 ans de prison. Un mot de la météo de demain matin, du soleil pour l'Île-de-France, le nord, les Pyrénées et le pourtour méditerranéen. Un ciel nuageux partout ailleurs. Les températures dans la matinée iront de 1 à Strasbourg jusqu'à 8 degrés à Nice. C'est la fin de ce journal préparé avec Nathalie Lopez. À la technique, Élise Le. 18